Radio Capi, Grand Témoin.
Artiste, musicien, concepteur et metteur en scène, ancien directeur du Ballet National, Oscar Diabanza est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Oscar Diabanza, soyez le bienvenu. Comment allez-vous ?
Mais ça va, hein ? Ça va.
Vous êtes un artiste complet et vous avez dirigé le Ballet National où vous êtes resté pendant 25 ans en compagnie des grandes vedettes de la musique congolaise, telles Etisomba, Betty Masikini, Mpongolo, pour ne citer que celle-là. Nous allons écouter l'extrait d'une chanson et je vous demanderai ce qu'elle vous rappelle. Alors, Oscar Diabanza, que vous rappelle cette chanson ?
Bon, beaucoup de choses, hein. C'est... Il y a très longtemps déjà, je crois.
30 ans ?
Parce que je pense que j'avais 13, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est Chem Chem Yetou, un groupe pour enfants, qu'avait créé à l'époque le père Bernard Van der Broek. Donc, et moi, je jouais de la guitare. Je pense que c'est mon premier enregistrement de guitare.
Votre premier solo. Et alors, comment vous avez intégré ce groupe ?
Oh, de manière très spontanée, parce que le groupe était basé, disons, dans mon quartier, à Matongé, sur l'avenue Kassavubu. Donc, gamin, on allait jouer là-bas. Et puis, on a vu un monsieur qui faisait chanter des enfants. C'était le père Bernard Van der Broek. Et voilà, on est parti là-bas, on s'est mis à chanter, à jouer des instruments.
Et il faut rappeler aux auditeurs que cette chanson a pendant longtemps été le générique de l'émission École Ouverte.
Oui, 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 oui.
École Ouverte à la télévision nationale.
Oui, oui, oui,
qui sont d'une certaine génération s'en souviennent.
Ah, ils s'en souviennent parce que c'était pendant vraiment longtemps, on l'entendait et on savait que c'était l'émission. C'était l'époque de la chaîne unique, hein. Donc il n'y avait qu'une seule chaîne de radio et... Cette chanson-là a été effectivement très connue.
Alors, à quel moment commencez-vous à jouer à la guitare ?
C'est difficile à dire. Dès qu'il y a eu une guitare à la maison, je crois. C'est mon frère aîné qui avait dû amener une guitare de son groupe de Xavier, si je me souviens. Donc, il y a assez longtemps. Il y avait une guitare à la maison et on a commencé à tâtonner, à tripoter là-dessus.
Et comment vos parents réagissaient-ils face à votre coup de foudre par rapport à la guitare et à la musique ?
Bon, ça s'est pas passé en un jour ni en une semaine. Je crois que c'était... Ils étaient très tolérants. Je pense bien que ça leur disait rien. Ils n'avaient aucun état d'âme sur ça. C'était le jouet des gamins et voilà. Donc, il n'y a aucune anecdote entre les parents et la guitare.
Alors, comment combiniez-vous la musique, la guitare et les études ?
Oui, mais là aussi, il n'y avait aucun problème. On n'avait pas le sentiment que le fait de jouer une guitare à la maison aurait pu devenir un problème pour faire des études. Nous sommes à une époque où faire des études était quand même facile, hein, très naturel. Il n'y avait pas de minéral, il n'y avait pas de frais scolaires, il n'y avait pas de cahier acheté. Donc, on allait à l'école quand il s'agissait d'aller à l'école. Et quand on était à la maison, on s'amusait comme on pouvait. Donc, il n'y avait aucun problème.
Et en parlant d'école, où avez-vous fait vos études primaires, secondaires ?
Bon, j'ai fait des études primaires comme tout le monde, dans mon quartier, à l'école primaire de Dendal, l'ancienne appellation de la commune de Kassavubu. Après, j'étais à l'Athénée de Ngiringiri, où j'ai fait des études de gréco-latine, quand même. Hein. Bon. Mais je ne suis pas très études-études, hein. Je suis plutôt du genre... Très tôt déjà, j'avais plus de passion pour les études. J'avais bien commencé des études supérieures. J'étais au conservatoire, l'ancien Institut National des Arts. Ça s'appelait le Conservatoire National de Musique et d'Art Dramatique. Donc, en ce moment-là, j'ai fait des études de musique, un peu de guitare, un peu de ceci. Mais très rapidement, j'étais derrière les pongolos, les abétis, tout ça. C'est le plus intéressant.
Donc, vous vous sentez mieux autodidacte que... études formelles, structurées.
Bah, je crois que c'est un trait de caractère. Hein. À l'époque, il n'y avait pas vraiment un choc ou un problème. C'est-à-dire que j'étais un peu plus, de plus en plus attiré vers des activités de plein air. Je crois que les études commençaient un peu à me chauffer, quoi. Donc, et il faut dire que c'est l'époque où ça commençait à aller de moins en moins bien. Et qu'il y avait des problèmes de professeurs à la télé de Ngiringi, je me rappelle. Les premières grèves, on n'était pas habitué à ça. disons que ça devenait ennuyeux un peu. Bon, la vérité, c'est que je n'aimais pas beaucoup. C'est ça que mes gosses ne veulent pas suivre ce mauvais exemple.
Vous naissiez à Kinshasa, mais en quelle année?
En 48, hein? Et mes parents sont arrivés ici, moi je suis né ici en 1948 et je suis resté là. Je suis furieusement kina. Hein.
De sang, comme le réclame le professeur Yoka.
Eh bien voilà, comme mon excellent ami le professeur Yoka. Oui, mes parents sont arrivés là très très tôt parce que tous les enfants, toute notre famille, nous sommes nés ici à Kinshasa. En fait, mes parents sont arrivés célibataires et nous sommes tous nés ici. Et je n'ai pratiquement jamais quitté... de manière permanente la ville de Kinshasa. Le plus long séjour que j'ai fait à l'étranger, je crois que c'est 2 mois, hein, le plus long.
Alors, vous êtes originaire de la province du Bas-Congo, Oscar Diabanza Matusongwa. Que signifie votre nom?
Le nom Diabanza, c'est le nom de ma mère. C'est assez rare pour le signaler parce que je ne porte pas le nom de mon père, mais celui de ma mère. Diabanza, ça veut dire ce à quoi j'ai pensé. Et Matusongwa, c'est ce qu'on va nous montrer. Les deux noms ne sont pas liés entre eux, parce qu'en fait, mon nom de naissance est Oscar Matusongwa, celui que mon père m'avait donné. Je deviendrai Diabanza par la force des choses, quand Mobutu va décider qu'on ne s'appelait plus, qu'on ne s'appellerait plus Oscar.
Alors,
chacun avait l'opportunité maintenant de se choisir un nom, et moi j'ai pris celui-là.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Oscar Diabanza Matusongwa, vous êtes artiste musicien, concepteur et metteur en scène et ancien directeur du Ballet National. Comment arrivez-vous au Ballet National, en fait?
Oh, ça, de la manière la plus extraordinaire, je peux dire. Je me souviens très bien. J'étais en train de traverser le boulevard, je revenais de je ne sais où, avec une guitare à l'épaule, et je tombe sur Ray Lema. Ray Lema, qui à l'époque, évidemment, était une personnalité de référence dans la musique. C'est celui-là qui faisait des recherches, entre guillemets. Et nous, à l'époque, on était très attirés par la recherche parce que très rapidement, la musique nous paraissait devenir un peu ennuyeuse, un peu routinière. Donc, je tombe sur Ray Lema. Il me dit, tiens, nous sommes sur un projet extraordinaire. Nous sommes en train de créer un ballet. Un ballet. Et ça, c'est un terme qu'on venait de découvrir parce que il y a 2 mois auparavant, 2 ou 3 mois, 6 mois peut-être auparavant, nous avions reçu la visite des célébrissimes ballets guinéens qui était venu se produire à Kinshasa. Donc c'était le choc. Pour la première fois, on rencontrait, en tout cas moi, j'avais vu le spectacle pour la première fois. Je ne savais pas ça. Et comme on n'avait pas la télévision, on n'avait pas beaucoup de références. Donc Ray Lema avec Alain Mons, un Belge, un garçon qui faisait du théâtre, ils étaient une bande de copains là qui avaient pris cette initiative extraordinaire de créer une troupe de ballet. Ils avaient fait les démarches et puis ça commençait à se faire. Alors il me dira, écoute, passe à la fiquine et viens voir ce que nous sommes en train de faire. Voilà comment c'est entré au ballet.
Vous travaillez pendant près de 25 ans au Ballet National, vous y deviendrez même directeur à un moment. C'est quoi un Ballet National?
Un Ballet National à l'époque dans ce concept-là, il faut dire que le ballet faisait partie d'un ensemble qu'on avait appelé le Théâtre National Mobutu Sese Seko. C'est une sorte de théâtre général, une compagnie nationale de spectacle. Le concept était celui de créer une troupe de théâtre, une grande troupe de théâtre nationale, c'est-à-dire qui devait représenter en fait l'expression de tout le pays. Or, nous savons que quand on parle de la RDC, l'expression nationale devient très complexe à cause de la diversité des ethnies et des modèles culturels. Donc le ballet national était intégré dans le théâtre national Mobutu Sese. Le ballet national était censé être une troupe capable de représenter la danse du Zaïre, de la RDC actuellement. Voyez-vous? Donc, c'est un concept très, très discutable à l'époque, parce que réunir dans une troupe l'ensemble de la floraison culturelle en tenant compte de la diversité ethnique, c'était un défi pratiquement impossible à relever. Alors la réalité qui s'est faite, c'est que bon, on avait pu intégrer là-dedans des modèles les plus standards le Congo, les Luba, le Katanga, l'Équateur, en gros, hein, parce que quand on dit l'Équateur, ma foi, ça part des Tekonda jusqu'au Mbaka, en passant par les Ngombe,
les Mongo.
Les Mongo. C'était, donc l'ambition était démesurée. Mais c'était l'époque des ambitions démesurées, hein. Nous sommes à l'époque du Zaïre, et Mobutu ne reculait devant aucun sacrifice pour arriver à déterminer, disons, la grandeur du Zaïre, la diversité culturelle. Donc le ballet national, c'était ça. 135 danseurs pour une troupe. C'était énorme. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre ça. C'était pris sur le modèle, je crois, de la comédie française, un peu quelque chose comme ça. On n'avait pas beaucoup d'ouverture, on ne savait pas trop ce que c'est. Mais le ballet national, c'était 135 musiciens traditionnels et danseurs traditionnels.
Mais à ce jour, quelle est la santé ou la situation du ballet national?
Oh, c'est fini, ça, c'est fini. C'est fini, je crois, parce que c'était une compagnie nationale financée par le budget de l'État à 100%. Donc, maintenant, les acteurs ne sont plus payés, il n'y a plus de frais de fonctionnement. C'est pour ça que nous sommes partis. Il n'y avait pratiquement plus rien à faire là-bas. On ne peut plus créer des spectacles. D'ailleurs, le spectacle qu'ils sont en train de jouer maintenant est l'Imangando. C'est celui-là que j'ai créé depuis 20 ans. Et on n'a pas pu le remplacer jusqu'à ce jour. Donc il n'y a pas de budget, il n'y a aucune créativité. Je pense que c'est fini, ça.
Et à part Elimangando, quels sont les autres spectacles qui vous ont marqué pendant votre passage au Ballet National?
Le premier, hein, Lianja. Lianja, c'est la légende de la création du monde par les Nkundo, les Mongo. C'est un récit extraordinaire. Il y a eu Lianja, il y a eu Lokolé, il y a eu Kenge, qui avait triomphé aux États-Unis, c'était remarquable. Et puis, finalement, Elimangando. Elimangando est devenu un classique. C'était le dernier, mais le dernier depuis 20 ans.
Et l'extrait qu'on entend là, c'est que c'est Elimangando?
Ça, c'est Elimangando. Ça, c'est la scène la plus poignante, la principale scène, quoi. La scène de l'enlèvement de la femme. Je ne vais pas reprendre l'histoire, hein, parce qu'elle est assez longue. C'est la version Elimangando que j'ai dû adapter pour un autre spectacle. J'ai eu l'occasion de créer un spectacle dans un groupe d'amis, nous sommes partis en tournée aux États-Unis. Et j'avais adapté cet extrait-là, parce que c'est quand même resté la scène principale. Je l'ai adapté pour un autre spectacle qu'on appelle Bomoko. Alors, c'est la même chanson, mais adaptée pour ce spectacle. Je l'ai beaucoup adapté, cette scène.
Alors, je vous invite à suivre ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît et que nous avons joint au téléphone pour vous.
Je m'appelle Frédéric Nyandu Chibotou. Je suis le directeur général de la compagnie Théâtre National Congolais. Eh ben, Diabanga, je l'ai connu en 1974. C'était à la création du Ballet National. J'étais en ce moment-là le responsable du Ballet National et nous participions ensemble à la création du premier spectacle qui était l'Épopée de Lianja. Lui, en qualité de responsable de musique, et moi, évidemment, responsable de la troupe.
Qu'est-ce que vous retenez de la personnalité d'Oscar Diabanga?
De très bons souvenirs, hein. Vous savez, c'est un grand artiste. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, sur le plan international, il n'a pas pu émerger. C'est un grand artiste doublé d'un grand arrangeur et un bosseur aussi, ça, il faut le reconnaître, qui a formé également beaucoup de jeunes artistes qui, aujourd'hui, se font parler d'eux sur le plan tant national qu'international. Donc, pour moi, c'est un grand artiste qui restera toujours un grand parmi les grands.
Il y a aussi un travail que vous avez réalisé ensemble, vous, Oscar Diabanga et Ray Lema. Pouvez-vous nous en parler brièvement?
Bon, en fait, vous savez, à la création du Ballet National, le tout premier directeur de musique, c'est Ray Lema, effectivement. Diabanga l'a remplacé au moment où Ray Lema est parti pour l'extérieur. Et bien, en prélude de la création du premier spectacle, il y a eu un travail de recherche à travers tout le pays, ici de récolte, qui avait permis à ce que nous puissions emmagasiner un lot important de données sur la musique, traditionnelle de notre pays. Et c'est ce qui avait permis à ce que nous puissions avoir un répertoire extrêmement riche, qui a fait que l'épopée de Lianja fut un grand succès. Donc, j'ai toujours gardé un très bon souvenir de cette période-là.
Il est avec nous au studio. Pouvez-vous lui adresser un petit message pour clôturer cet entretien?
Oui, bon, c'est pour ça. Tu m'écoutes, tu sais, la vie est un combat. Hein, on a été ensemble, on a bossé ensemble. Aujourd'hui, on est chacun dans son petit coin. Mais je crois que nous poursuivons tous le même objectif, c'est le triomphe de l'art, le vrai. Hein, nous avons toujours été ceux qui ont toujours milité pour le vrai art et non pour l'improvisation telle qu'on le fait présenter aujourd'hui. Donc je t'encourage là où tu es. Je crois que tu es avec nous et on ira toujours de l'avant.
Merci Monsieur Frédéric et bonne journée.
Alors Oscar Diabanga, j'ai eu beaucoup d'émotions sur votre visage. Réaction?
Mais oui, parce que ça c'est... Le Ballet National en fait c'est toute une vie. Hein. J'y suis arrivé très tôt. Et je suis resté quand même 27 ans, donc j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans cet environnement-là. Et je le vois, Freddy Ngandou-Djibouto, Freddy le directeur. Mais là-bas, les directeurs ne portaient pas de terme, hein, on était tous un groupe de copains. Et effectivement, c'est une ambiance que je ne reverrai peut-être plus jamais, parce que ces conditions-là de l'époque étaient exceptionnelles. Un guide Mobutu Sese Seko qui ne reculait devant aucune dépense, qui entretenait une troupe de plus de 250 artistes, allez l'imaginer aujourd'hui. Et nous avions un site, là où est construit le stade des martyrs. Ah, nous avions un site, une salle de spectacle avec des annexes, des bureaux. J'étais pendant 20 ans dans un bureau climatisé. À l'époque, c'était un luxe extrême, voyez-vous. Donc, une époque... qui me semble être évolue, mais ne soyons pas pessimistes. Hein. Pour les jeunes générations, l'avenir est tout tracé. Et nous devons œuvrer, je pense, nous qui avons accumulé autant d'expérience, peut-être à redéfinir de nouveaux horizons pour la jeunesse, une autre vision pour les arts, le spectacle, la culture en général.
Et Frédéric Ngandou se demandait pourquoi vous n'avez pas émergé sur le plan international.
Oh, vous savez, ça c'est un peu la terminologie générale, hein. On émerge sur le plan international. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, émerger sur le plan international? Il faut considérer qu'on émerge dans le cadre des organisations, des show business, des spectacles, tout ça. La troupe du Ballet National elle-même n'a pas émergé sur le plan international. Comment voulez-vous que moi j'émerge? Alors que, voilà.
Non.
C'était un peu plus compliqué. Le Ballet National s'est arrêté au moment, disons presque à la fin de la première étape de la préparation. Parce qu'il fallait concevoir cette troupe. C'était un nouveau concept. Il fallait d'abord enseigner, parce que mettre des musiciens traditionnels ensemble, des danseurs traditionnels ensemble, ce n'est pas évident. Parce que les troupes, les cultures traditionnelles sont hermétiques et ils n'ont pas d'interface entre elles. Donc c'est ce qui fait que vous prenez un musicien pendé, il ne joue pas avec un musicien mongo, par principe. Donc, de les convaincre, de les mettre ensemble, de faire des ateliers, ça nous a pris beaucoup de temps. Alors, créer cette troupe, commencer à organiser les spectacles. Nous sommes partis pratiquement dans le monde entier pour jouer ces spectacles-là. Mais pas dans un contexte d'exploitation commerciale. Pas encore. C'était les accords culturels, on allait en Belgique, on allait en France, en Chine, au Japon, en Corée du Nord, aux États-Unis, mais c'était dans le cadre des échanges. Donc, devrait s'en suivre, logiquement, une époque où la troupe devait verser dans le professionnalisme et commencer à mettre des affiches dans les salles. Ça n'est jamais arrivé. Alors, pauvre Freddy, c'est difficile que nous émergions sur le plan international parce que la troupe elle-même n'a pas émergé.
Alors, Oscar Diabanza, je vous invite à suivre maintenant l'extrait d'une autre chanson par laquelle certains mélomanes vous reconnaissent et on se retrouve juste après.
Yo pa' putina y putina y a fundar.
Diabanda, j'ai lu un large sourire avec beaucoup d'émotion sur votre visage. Certaines personnes ne le savent pas, c'est une de vos compositions.
Oui, mais c'est l'époque dont je parlais, je crois.
La belle époque.
La belle époque, il faut le dire. Moi, je peux le dire. Ça, ça me rappelle Dani Luntadila. Dani Luntadila, c'est ce journaliste qui animait une émission très célèbre à l'époque, Chanson aux 100 visages, à la radio. Dani Luntadila, il y avait un Kéri, il y avait tout un environnement. Donc, c'était pas professionnel. Cette chanson, évidemment, a eu la chance, entre guillemets, c'est Suzy Kasea qui l'a arrangée. Tout simplement parce que un jour, on était à la Arena Pec, à la Telesco, RTNC2, actuellement. On était là, une bande d'amis avec les Dani, tout ça, et Pongolov était là. Pongolov était une amie du groupe, se connaissait avec Dani, tout ça, avec tout le monde, et on se connaissait tous. Et moi, j'étais en train d'enregistrer cette chanson, mais avec quelqu'un d'autre, avec une autre fille, qu'on appelait Sophie Laila à l'époque. Voilà. Et Pongolov est tombé amoureux de cette chanson, il dit, mais c'est extraordinaire cette chanson, il faut que je la chante. Tonton, on m'appelait Tonton, je dis, oh, écoute, si tu veux, hein, je l'interprète. Donc, les choses se passaient de manière très détendue. C'était une époque où les jeunes pouvaient se permettre de rigoler et de ne. On n'avait pas de soucis d'argent, on ne signait pas des contrats, on n'en avait pas besoin. Pour cette chanson, je n'ai signé aucun contrat, je n'ai pas touché un seul cent là-dessus.
Et vous ne le regrettez pas ?
Mais pas du tout, parce que l'époque était saine, les mentalités étaient saines. On avait confiance à l'avenir. On se disait l'avenir serait meilleur. Qu'on se soit fait trahir par un avenir qui n'est pas meilleur, ça c'est un autre problème. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes, c'est la vie, quoi. Donc ça ne me rappelle que de bonnes choses. Oh, Pongolov, une merveille. Vous ne pouvez pas imaginer une fille qui était aussi désavantagée par la nature. Être devenue une idole. Elle se tenait sur scène, elle avait besoin de s'appuyer sur quelque chose pour se tenir sur scène. Mais elle faisait des sales combles qui n'est pas la diome ici, à Cinémax, actuellement. Donc, ce sont des histoires extraordinaires. Donc, elle est partie de rien, elle est devenue, évidemment, comme dans toutes les belles histoires, dans les contes et les légendes, cette histoire s'est achevée aussi très vite et de la manière que l'on sait. Mais c'est la vie, ça, c'est ce que vous voulez.
Oscar Diabanda, après le ballet national, qu'êtes-vous devenu ?
Devenu, après le ballet national, j'ai continué à travailler pour mon compte. J'étais avec un groupe d'amis, Jason Schipper, c'est un ami musicien qui avait un studio. On a conçu beaucoup de projets avec lui. Je me suis retrouvé dans des situations incroyables. J'étais en train de diriger une chorale à Haïfa, en Israël. Devant 10 000 personnes venues du monde entier, j'étais en train de conduire en première mondiale une chorale sur... Donc, il y a eu beaucoup d'anecdotes. J'ai fait beaucoup de choses pour mon compte, pour mon plaisir, pour mon bonheur. Mais, bon, voilà. j'ai pas fait grand chose. Si on imagine que je devais être dans une entreprise, je suis payé ou j'ai gagné de l'argent, je n'ai rien gagné. Voilà.
L'année passée, au Festival Yambi, on vous retrouve autour du projet Musique Croisée. De quoi s'agissait-il?
Eh bien, un croisement, justement, puisque je suis toujours resté dans la logique des rendez-vous culturels, des échanges. Je pense que le monde, dans cette logique qui nous amène vers la mondialisation, les cultures doivent se rencontrer. Donc les croisements, ça reste mon thème favori. Alors voilà que émerge un projet intéressant, sublime même. Yoka me dit, bah, écoutez, viens voir ce qu'on fait un peu là. Il y aura un grand festival en Belgique, Yambi. Comme le terme disait, nous allons nous yamber, nous allons nous embrasser avec des gens là-bas. Et les croisements, dans ce qui nous concernait, c'était de mettre ensemble plusieurs genres musicaux d'ici et de créer un spectacle unique. Depuis le ballet national, c'est resté un défi, hein. Donc jusqu'à présent, il n'existe pas dans notre pays, pas encore, des manifestations, des travaux où plusieurs artistes, plusieurs tendances se rencontrent. C'est terrible, ce que les Congolais n'aiment pas travailler ensemble, n'aiment pas se rencontrer. Il y a toujours une sorte d'intolérance. Il y a des talents qui émergent, mais c'est toujours des chacun dans son coin. Vous, jamais vous ne verrez tel grand artiste donner un grand concert avec tel autre. Et pourtant, partout dans le monde, c'est des banalités, c'est des arrangements de producteurs, ça, des choses qui se font. Donc, dans notre pays, ça se fait difficilement. Alors, nous avons fait Musique Croisée. Nous avons fait ce croisé Ikondongo, qui est un griot du ballet national, avec un joueur de langoung, c'est-à-dire un traditionnel qui ne joue que du tam-tam. Mais nous l'avons fait accompagner par des guitares, des batteries de jazz et tout. Donc nous avons fait une sorte de croisement entre plusieurs tendances musicales de notre pays, la musique traditionnelle, la musique moderne, le chant, nous avons arrangé des chœurs, nous avons arrangé des danses, donc il faut aller voir ce spectacle, il est...
il était formidable, hein.
Et voilà.
Radio Capine, grand témoin.
Nous tendons vers la fin de cette émission, Oscar Diabanza. À 60 ans, avez-vous déjà songé à votre relève?
Oh, la relève, ça, c'est vraiment le seul souci que j'ai. Vous avez pu remarquer que j'ai pas beaucoup de soucis parce que je pense que la vie doit se dérouler comme elle se déroule là-bas. Mais la relève, effectivement, ça m'inquiète un peu parce que je n'ai pas le sentiment qu'il se prépare, que les jeunes sont suffisamment...
réceptifs.
Non, ils sont pas suffisamment sollicités parce qu'ils sont réceptifs, effectivement. Je pense à l'Institut National des Arts. Ces gens-là sont en train de faire un travail héroïque pour essayer de maintenir l'enseignement de la musique. C'est important. Il faut que les gens connaissent le solfège. Il faut qu'ils connaissent l'arrangement musical. Il faut qu'ils sachent jouer à des instruments. Parce que les défis à venir sont tels que il faut des musiciens qui aient suffisamment de bagages pour se confronter à ces échanges. Parce que les échanges sont inéluctables, inévitables. Le monde va vers des situations de rencontres. Donc nos artistes seront de plus en plus amenés à se produire avec des artistes étrangers dans des contextes beaucoup plus de mondialisation, quoi. Donc la relève, ça m'inquiète. Personnellement, chaque fois que je rencontre des jeunes, eh bien, je contribue à leur ouvrir des horizons, je leur parle de ce que je sais et je leur donne des perspectives auxquelles ils seront peut-être confrontés, quoi. La relève, c'est un vrai problème parce que sur le plan institutionnel, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se font actuellement pour les jeunes, pour l'avenir. Mais espérons, nous tous, l'espoir étant tout ce qui nous reste actuellement, nous pensons que la jeunesse devrait faire l'objet de plus de sollicitations. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas de concours. Comment on peut déterminer que tel musicien a été le meilleur cette année? Il n'y a pas de concours de la chanson, il n'y a pas de concours d'instruments, il n'y a pas de festival, tout est subjectif, tout est monnaïste, la corruption et tout et tout. L'art ne peut pas se passer dans un environnement aussi pourri que celui-là. Donc il faudra instaurer le concours, que les gens aient l'occasion de montrer ce qu'ils veulent montrer et de dire ce qu'ils sont. et pour qu'on puisse dire que voilà des jeunes qui émergent, pour qu'ils soient motivés, poussés vers la recherche, le travail, voyez-vous. Donc, vraiment, la relève, ça, c'est quelque chose qui me pose un gros souci, quoi.
Oscar Diabanza, merci d'être passé à Grand Témoin.
C'est moi qui vous remercie.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Oscar Diabanza Matusongwa, artiste musicien, concepteur et metteur en scène, ancien directeur du Ballet National, à la réalisation et à la technique Paulin Moinkiew, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, et partout dans le monde.